Les princes entrent en révolte. La fronde du Parlement a donné des idées aux princes. En effet, le frère de Condé, le prince de Conti et leur sœur, la duchesse de Longueville, la grande mademoiselle, la cousine du roi, fille de Gaston d'Orléans, et puis La Rochefoucauld, Paul de Gondy, Bouillon et quelques fidèles décident de renverser Mazarin. Ainsi naît, au début de 1649, la fronde des princes. Fuir. Il ne reste que cette solution pour Anne et Jules. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, vers 2 heures, Anne d'Autriche et ses deux enfants, Louis XIV et son frère Philippe, duc d'Anjou, Gaston d'Orléans et Mazarin, quittent Paris pour Saint-Germain. Ils gèlent à pierre fendre. À leur arrivée au château de Saint-Germain, personne ne les attend. Ils trouvent un mauvais lit que va prendre la reine et deux lits d'enfants en piteux état. Le petit roi et son frère les occuperont. Les quelques serviteurs qui les ont accompagnés vont chercher de la paille afin de l'étendre sur le sol pour dormir. La reine n'a plus d'argent, plus rien. En février et mars, pendant qu'on apprend qu'en Angleterre le roi Charles Ier vient d'être décapité, Condé, encore du côté d'Anne, se met à la tête de l'armée royale afin de reprendre Paris. Il en organise le blocus. À Charenton et à Longjumeau, les milices parisiennes tentent de forcer ces barrages. Elles sont battues. Les princes, à Paris, font appel à l'Espagne, à l'Allemagne, à quiconque pourrait leur apporter un peu d'aide pour se débarrasser de l'Italien. Mais le moral des Parisiens est bientôt atteint. Ils se lassent du blocus qui rend difficile l'approvisionnement. Le Parlement préfère traiter avec Anne d'Autriche. Le 11 mars 1649, la paix est signée à Rueil. Les princes en tirent un grand bénéfice. Anne d'Autriche et son petit Louis vont pouvoir revenir dans la capitale le 18 août. Ils y sont acclamés, mais leur prestige et leur autorité sont sérieusement atteints.
Fin de la guerre de 30 ans, les traités de Westphalie. Le 24 octobre 1648, à Osnabrück et à Münster, en Allemagne, les traités de Westphalie sont signés. Ils mettent fin à la guerre de 30 ans. Ils donnent aux princes allemands la liberté de religion dans leurs états. La possession des trois évêchés de Metz, tous les Verdun, est confirmée pour la France. De plus, elle reçoit la majeure partie de l'Alsace.
En 1650, Condé s'estime trop peu récompensé par Anne d'Autriche. Il veut obtenir des privilèges exorbitants. Anne le supporte d'autant moins que pour l'amadouer, il a tenté de lui donner, contre son gré, un amant. Elle décide alors de se rapprocher des princes frondeurs et d'organiser avec eux l'arrestation de Condé. Ce projet est mené à bien grâce à la complicité du prince de Gondy, à qui est promis, pour prix de sa trahison, le chapeau de cardinal. Condé, son frère Conti et Longueville, son beau-frère, sont mis sous les verrous. Mais, fin janvier 1650, leurs épouses parviennent à fuir de Paris pour aller allumer la guerre en province. La Normandie, la Bourgogne et la Guyenne se soulèvent. Mais les révoltes sont bientôt matées. Tout semble rentrer dans l'ordre. Mazarin et Anne d'Autriche peuvent se considérer maîtres de la situation. Mais ils ont oublié un détail. À qui avait-il promis le chapeau de cardinal pour avoir trahi ses amis? À Gondy. Et il ne l'a pas eu. Gondy, c'est le futur cardinal de Retz, l'auteur des Mémoires, publiés au début du XVIIIe siècle. Un régal de lecture. Il entre alors en relation avec le frère du roi, qui rompt avec Anne d'Autriche. Il s'allie au Parlement pour demander à la reine, par la voix de son président, le 20 janvier 1651, la libération des princes. Elle refuse. Que fait Mazarin? Dans la nuit du 6 au 7 février 1651, il quitte discrètement la capitale pour Saint-Germain, où il espère qu'Anne d'Autriche et le jeune roi vont le rejoindre. La reine s'apprête à le faire, mais le 8 février, les portes de la ville sont fermées et sévèrement gardées. Les Parisiens se sont doutés de l'entreprise. C'est alors que se déroule, dans la nuit du 8 février 1651, un événement qui va profondément marquer le jeune Louis XIV. Le peuple envahit le palais du Louvre, cherche la chambre du roi, en ouvre les portes afin de voir s'il ne s'est pas enfui. Leur violence est telle qu'il craint pour sa vie. Mais cette foule surexcitée s'en va et laisse le roi marqué par une humiliation dont il ne cessera de se venger plus tard. Le palais de Mazarin est pillé et ses biens sont confisqués. Il s'enfuit alors près de Cologne au château de Brühl, après avoir fait libérer les princes qui avaient été dirigés vers le Havre. Condé rentre à Paris en triomphateur, où il retrouve son nouvel allié, Gondi. Le 7 septembre 1651, la majorité de Louis XIV est proclamée. Il a 13 ans. Tous les grands viennent lui rendre hommage, sauf Condé qui s'est retiré en Guyenne, afin de lever une armée et de marcher sur Paris. En octobre, le jeune Louis XIV juge cette attitude comme une trahison. Il prend avec sa mère Anne la tête d'une petite armée qui parvient à faire reculer Condé jusqu'en Dordogne. Celui-ci, ayant fait appel aux Espagnols, est déclaré rebelle et traître. Mazarin, toujours en exil, et qui aurait pu attendre la fin des événements, il utilisait pour correspondre avec Anne un certain Jean-Baptiste Colbert, se dit alors qu'il doit voler au secours du roi. Il se dirige vers Poitiers avec une petite armée de 8000 hommes. Mal lui en prend. Sa tête est mise à prix. Le Parlement de Paris promet une récompense de 50 000 écus à qui le livrera. Les Espagnols refusent leur aide à Condé. Il fait appel aux Anglais. Sans succès.
Les horreurs de la guerre civile. L'horreur. Après la libération de Condé en février 1651, les gens de guerre pillent l'île de France et ravagent tout sur leur passage. Les missionnaires de Vincent de Paul rapportent des scènes de famine où les paysans mangent des racines, des écorces et se laissent aller à bien pire, comme à l'accoutumée en ces temps d'abomination. Les cadavres pourrissent dans les champs où poussent les herbes sauvages, plusieurs lieux autour de Paris. Les villes ont été désertées. Les loups rôdent partout.
En janvier 1652, la troupe du roi met le siège devant Angers qui s'est révoltée contre la trop grande sévérité de son gouverneur royal. La ville capitule en février. À Saumur, en mars, Turenne, qui avait fait alliance avec les frondeurs, se rallie au roi. Le 7 avril, avec Ocquincourt, il rencontre l'armée de Condé à Blénod. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Blénod semble seulement le point de départ pour la conquête de Paris. L'armée de Condé s'arrête à Saint-Cloud, celle de Turenne à Saint-Denis. La course à la capitale va se terminer le 2 juillet 1652. Ce jour-là, Louis XIV et Mazarin regardent ensemble, du haut de la colline de Charonne, l'affrontement entre Turenne et Condé. Celui-ci commence à quitter le faubourg Saint-Antoine, alors situé hors les murs. Turenne l'attaque, Condé est presque battu. Mais un événement incroyable survient. La grande mademoiselle, la princesse la plus riche d'Europe, cousine de Louis XIV, fille de Gaston d'Orléans, s'est installée à la Bastille. Soutien de Condé, elle fait ouvrir la porte Saint-Antoine. Les frondeurs, Condé en tête, peuvent ainsi être sauvés. De plus, elle ordonne que le canon soit pointé sur les troupes de Turenne et elle fait tirer. Les troupes de Turenne battent en retraite. La capitale est livrée à l'anarchie. Condé, qui est maître de Paris, envoie une bande de soudards massacrer des bourgeois, des magistrats et des curés rassemblés à l'hôtel de ville de Paris et qui tentaient de trouver des solutions pour éviter les émeutes. On relève 40 morts. Après quoi, l'hôtel de ville est incendié. Condé devient général des armées, le frère du roi l'assiste en tant que lieutenant général, un gouverneur de la ville est nommé Beaufort, et le vieux Broussel est nommé prévôt des marchands. Les Espagnols profitent de l'état de confusion extrême pour envahir le nord en juillet 1652. Turenne, qui a quitté Paris en toute hâte, parvient à les repousser, mais ils prennent Dunkerque et Gravelines. La situation est confuse. Absurde. En août, les bourgeois de Paris n'en peuvent plus. Ils veulent absolument se débarrasser de Condé. Ils opèrent un rapprochement avec Anne d'Autriche, mais exigent pour son retour à Paris que Mazarin disparaisse. Celui-ci accepte de quitter la France et gagne la Belgique.